Allez, allez, on se dépêche, allez!
Vie étudiante et associative.
Il c'est la grande voile!
Politique, société.
Mais y'a pas de voile, abruti!
Culture.
Immersion dans 10 secondes!
Et même du sport.
Take that out. Four forward. Four forward, drift into the right level.
Tout le monde est à son poste?
Du lundi au jeudi, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'info de Radio Campus Angers.
Bonsoir à tous, il est 18h et vous êtes branchés sur Radio Campus Angers. Nous montons à bord du sous-marin, notre quasi-quotidienne d'actualité locale qui s'est mis en mode premier plan pour la semaine. Au programme ce soir, de la chronique, de l'interview et surtout de la découverte. Quentin et Alexis nous feront un petit focus sur Raymond Depardon qui est au cœur de la programmation du festival. Ils reviendront sur leur film Coup de cœur. Tiphaine est partie à la rencontre de Jean-Michel Frodon qui se trouve au cœur du festival Premier Plan sur les thématiques de la profession reporter. Ils reviendront sur son parcours et son travail. Pour finir, nous repartirons dans le milieu des programmes films d'école avec une interview de Gabrielle Stemmer, réalisatrice du film Clean With Me After Dark. Puis Thibaut et Quentin nous parleront de nouveaux films présents dans cette programmation. Un beau programme chargé, rythmé par des musiques de films choisies par les soins de la rédaction. Soyez prêts, on commence dans quelques instants sur Radio Campus Angers. Cette semaine, le sous-marin vous emmène en immersion dans le monde du 7e art avec le festival Premier Plan d'Angers. Pour commencer cette partie d'émission spéciale de Pardon, j'accueille Quentin pour une petite chronique. Bienvenue.
Bonsoir Manon, bonsoir à tous. Alors effectivement, aujourd'hui j'ai décidé de m'attarder sur un film que je suis allé voir hier matin avec Alexis. C'est un film de Raymond Depardon qui se nomme Délit flagrant. Donc le film a obtenu en 1995 le César du meilleur film documentaire. Avant de parler plus en détail de ce film, j'aimerais juste te dire un petit mot sur ce photographe cinéaste qui est Raymond Depardon. Ceux qui sont fans de photos et de documentaires le connaissent probablement puisqu'il fait partie des plus grands dans sa discipline. Pour ceux qui l'ignorent, il est donc réalisateur, journaliste et scénariste français. Il est aussi considéré comme l'un des maîtres du film documentaire et il a créé son agence photographique Gamma en 1966 et est membre du Magnum Photo depuis 1979. Donc c'est une coopérative photo créée en 1947 par des Américains qui rassemble des photographes du monde entier et qui couvre toute la planète. Nous avons eu la chance d'assister à une rencontre d'après-film avec Raymond Depardon et il nous a fait une confidence, c'est que durant sa carrière on disait de lui qu'il voyait ce qu'il ne savait pas.
Donc un grand cinéaste au final qui a 77 ans et qui continue de proposer des projections de qualité. Et toi Quentin, tu t'es intéressé à son film Délit flagrant, c'est ça?
Alors effectivement, un film sorti en 1994, il a été tourné dans les bureaux de la 8e section du Palais de Justice de Paris. Le principe est intéressant puisqu'en fait, il s'agit pendant 1h45 de suivre des interrogatoires, 14 affaires qui nous sont dévoilées, toutes différentes les unes des autres. Je vous propose de découvrir un extrait d'un entretien qui m'a particulièrement plu. Cela concerne une jeune dame qui a trafiqué les fils d'une voiture. Écoutez.
Vous êtes devant moi pour un vol. Le 4 janvier 1994, on vous a trouvé au moment où vous réussissiez à faire démarrer en rapprochant les fils, ce qui démontre que vous n'êtes pas une mauvaise professionnelle. Je veux dire, il faut déjà savoir faire ça. Un véhicule automobile qui avait déjà été volé à Monsieur Perrin Christophe. Alors j'ignore si c'est vous qui avez la première commis le premier vol, trafiqué et ensuite circulé. Vous être arrêté et être remonté dans la voiture, ou si c'est quelqu'un d'autre qui a commis le premier vol, qui a démonté les fils, dénudé les fils, contacté, et que vous êtes ensuite monté dans la voiture. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut voler deux fois, même trois fois, un même objet. Et oui. Que vous, on vous a surprise en train de faire démarrer ce véhicule.
Je ne le démarrais pas, j'avais mis le contact pour pouvoir ouvrir les portes à l'arrière pour récupérer les quelques vêtements que j'avais mis dedans.
Ah, vous étiez déjà dedans. Enfin, moi, je vais vous lire ce qu'il y a contre vous pour qu'on voit si on est bien d'accord.
Je ne nie pas.
Parce que si vous êtes déjà dedans, vous êtes entré. Si vous êtes entré, vous pouvez sortir. Et par conséquent, la nécessité de mettre le contact ne m'apparaît pas, quant à moi, évidente.
Mais
ce sont des passants. Bon, attendez, je vous montre déjà ce qu'il y a dans le dossier. Hein. L'intéressé a été interpellé par des passants, surpris de voir un véhicule portière ouverte, feu allumé, fil de Neyman arraché, stationné devant l'entrée d'un garage. Elle, c'est vous, venez de connecter différents fils de contact et le moteur était en marche.
Alors, je tiens à préciser que ce sont de réelles affaires et qu'aucun entretien n'est truqué. Dans ce documentaire, c'est vrai qu'on rigole pas mal avec des réponses parfois inattendues et plutôt comiques, comme là avec cette jeune femme qui explique vouloir trafiquer les fils de sa voiture pour ouvrir la porte arrière afin de prendre quelques affaires, alors qu'au final, elle avait juste à se tourner et prendre ce dont elle avait besoin. Alors, on ne l'entend pas dans cet extrait, mais la prévenue a expliqué par la suite qu'elle n'avait pas pensé sur le coup à se retourner pour prendre les affaires. Enfin bref, autant de réponses ahurissantes qui dénotent aussi un certain dialogue de sourds entre les prévenus et les hommes et femmes de loi. Des justifications, des mensonges, des aveux, des sermons. On se sent complètement impliqué sans vraiment prendre parti. C'est là la beauté de ce documentaire. Il n'y a pas de gentil ni méchant, juste deux humains, l'un qui fait son boulot et l'autre qui tente de survivre. Alors il y a tout type de profil, un voleur à la tire, un toxicomane, un mari brutal, des vandales, des immigrants clandestins, bref, une belle compilation.
Et puis on sent au final qu'on est face à des choses que l'on ne voit jamais finalement.
Tout à fait, on est vraiment plongé dans le quotidien judiciaire, chose que l'on ne voit pratiquement jamais quand on est un citoyen lambda. Et j'ai vraiment apprécié de voir comment tout cela se déroulait, la manière à la fois très douce et très calme qu'a la personne de loi pour s'adresser aux prévenus. De voir aussi la gestuelle des personnes interrogées qui sont aussi des dialogues cachés au final. Parce que souvent il y a des silences qui règnent dans la salle d'interrogatoire et seuls les mouvements parlent. Donc beaucoup de richesse dans ces entretiens plutôt court. Et je finirai cette chronique avec une citation de Paul Klee qui définit ce film, selon moi, et les œuvres de Depardon en règle générale. La phrase est la suivante: l'art, c'est de rendre visible ce qui est invisible.
Et ben, merci beaucoup pour cette chronique. Et en tout cas, pour continuer, on va laisser place à la chronique d'Alexis qui commence en musique et on se retrouve juste après sur Radio Campus Angers.
Un fait divers et rien de plus. Voilà ce que chantait le groupe Le Club en 1982. Fait divers, c'est aussi le titre du documentaire réalisé par Raymond Depardon et tourné la même année, mais qui sortira finalement en 1983. Drôle de coïncidence, Depardon, qui revendique son envie de filmer le réel, nous emmène découvrir le quotidien d'un commissariat dans le 5e arrondissement de Paris. Si l'on se croirait tout droit sorti d'un sketch des Inconnus ou d'un striptease, je parle bien sûr de la célèbre série diffusée sur France 3, il n'en est rien. Depardon, caméra micro à la main, filme de longues séquences où l'on suit la brigade de police sur le terrain ou au commissariat. Présent au Grand Théâtre pour présenter son film, il expliquera en avoir eu l'idée lors d'un séjour à New York où les chaînes américaines de télévision diffusaient alors de longs reportages de faits divers à destination des ménagères. Depardon, fasciné, tena là le prochain sujet de son documentaire. Je vous propose maintenant d'écouter un extrait de la scène la plus marquante à mes yeux. Une longue séquence irréelle où d'une femme déclarant avoir été victime d'un viol se retrouve finalement, au bout d'un long entretien avec le commissaire, à devoir s'excuser face à son agresseur présent dans la salle d'à côté.
Vous comprenez une chose, hein, voilà, c'est que le viol en France c'est un crime. Et que ce garçon il risque de se retrouver pendant 5 ans en taule, minimum. Parce qu'il a fait l'amour avec vous alors que vous n'étiez pas d'accord faire l'amour avec lui. Parce que bon, vous avez quand même passé une nuit ensemble déjà la semaine dernière, mais enfin là, et lui il voulait remettre ça au jus, vous n'étiez pas d'accord. À partir de là, il téléphone à sa petite copine, ça continue à mettre de l'huile sur le feu, et à partir de là, vous l'envoyez au taule pendant 5 ans. Ça fait quand même beaucoup, hein. Vous ne pas? Alors on va faire une chose, on va bien se mettre d'accord,
oui.
Puis ensuite on va mettre tous les deux ensemble, vous allez vous faire des excuses, lui, de vous avoir fait ce qu'il vous a fait, qui n'était peut-être pas très correct.
Je ne veux pas le voir.
Hein?
Je ne veux pas le voir.
Et puis vous allez vous excuser auprès de lui, parce que vous lui avez fait passer une sacrée soirée aussi. Hein? Aïe, 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 aïe. Bon, alors...
Les bases sont posées. On ne sait s'il vaut mieux en rire ou tomber dans un profond désarroi. Le rythme ne s'essouffle pas durant les 108 minutes du film. Les histoires sont touchantes, parfois amusantes. On retrouve espoir quand cette vieille femme qui, après s'être fait agresser par un toxicomane, décide de ne pas porter plainte contre ce dernier. On oublie complètement Depardon derrière sa caméra, s'effaçant totalement pour laisser libre place à ces policiers tout droit sortis d'une mauvaise comédie française. Ça tombe bien, la projection a lieu dans le Grand Théâtre d'Angers. En bref, un film documentaire émouvant et d'une grande pudeur qui ne tombe pas dans le voyeurisme ou le mauvais goût. En quelque sorte, un aperçu de la police à papa. À compléter par le visionnage de Délit flagrant et Dixième chambre, instant d'audience.
Merci beaucoup Alexis pour cette chronique. Ne bougez pas, nous revenons dans quelques instants pour une interview de Jean-Michel Frodon menée par Tiffen. En attendant, pour rester dans la thématique du 7e art, on écoute Small Town Boy de Bronski Beat, remixé par Arnaud Rebontini, que vous avez probablement déjà entendu, notamment dans 120 battements par minute.
Run away, turn away, run away, turn away, run away, turn away.
êtes toujours à bord du sous-marin sur Radio Campus Angers. Pour la suite, Tiffaine est partie à la rencontre de Jean-Michel Frodon, critique, journaliste et enseignant, participant activement au festival sur les films de reporters. Je vous laisse découvrir tout ça.
À l'occasion du festival Premier Plan d'Angers, j'ai eu la chance d'interviewer Jean-Michel Frodon, invité spécial du thème Profession reporter. Pour revenir un peu sur ce focus, c'est une sélection de 22 films montrant chacun une vision du journalisme. Donc on voit un journaliste voyeur dans Night Call, un journaliste drôle et en noir et blanc dans La Dame du Vendredi, ou encore journaliste héros dans Les Hommes du Président. Pour revenir sur Jean-Michel Frodon, de son vrai nom Jean-Michel Billard, c'est un journaliste critique, enseignant à Sciences Po et historien de cinéma. Il a bien voulu répondre à mes questions sur le reportage. Pourquoi est-ce que c'est important de faire un focus sur la profession de reporter cette année ?
Donc la relation entre cinéma et journalisme m'intéresse depuis longtemps. Je suis critique de cinéma, mais je suis aussi journaliste, donc ça me concerne personnellement. Et j'avais dirigé aux éditions des Cahiers du Cinéma un livre qui s'appelle Print the Legend, qui est dédié à cette question-là il y a maintenant une douzaine d'années. Je pense que c'est encore plus important aujourd'hui, d'une certaine manière, à cause de la manière dont évolue l'information, à cause d'Internet, à cause des réseaux sociaux, à cause de ce qu'on appelle les fake news, à cause d'autres formes d'information que celles fournies par les journalistes, notamment les lanceurs d'alerte, toute cette autre manière d'alerter ou de transmettre des informations à l'opinion publique, et que le cinéma a accompagné, a traduit, a représenté toutes ces évolutions. Dans la programmation qui est faite ici, il y a à la fois des films assez anciens qui décrivent la relation traditionnelle avec les médias, c'est-à-dire avec la presse écrite, puis avec la télévision, et des films beaucoup plus récents qui, eux, prennent en considération tout ce qui se passe d'actuel en ce qui concerne l'information.
D'accord. Donc c'est un peu une historicisation du métier de reporter qui voulait être montrée par ces films.
Tout à fait. Et ces films... contiennent à la fois donc des films enfin le programme contient à la fois des films des années 40, 50, 60, 70 qui ont été les étapes passées mais qui ont toujours de l'importance. La preuve c'est que quand Steven Spielberg fait Pentagon Papers, il revient sur comment la presse avait fonctionné dans les années 70 pour dénoncer pour rendre visibles des documents du Pentagone, donc du ministère de l'armée américaine, cachés par les officiels. Mais il fait ce film aujourd'hui, donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, on continue de s'intéresser à des états antérieurs de l'information, mais aussi quand Laura Poitras fait Citizen Four sur Snowden, et donc sur un lanceur d'alerte qui prévient et qui avertit de la manipulation des données personnelles par à nouveau l'administration américaine, là on a une situation qui associe un personnage actuel, le lanceur d'alerte travaillant sur l'informatique et sur la circulation des données en ligne, et un personnage plus traditionnel qui est le journaliste, grâce auquel il va pouvoir le faire, puisque Snowden tout seul n'aurait pas pu se faire connaître et se faire entendre. C'est parce qu'il y a un journaliste du Guardian, du journal anglais The Guardian, qui est donc un représentant, on peut dire, des anciens médias, des médias traditionnels, et qui va être le porte-voix d'Edgar Snowden pour que le monde entier soit mis au courant des usages illégaux et contraires à toute morale que fait l'administration américaine des données de tout le monde, mais en particulier des données stratégiques d'autres pays.
Là, vous revenez quand même beaucoup sur des films avec une image du journalisme assez positive. Donc, vous avez parlé de Citizen Four et de Pentagon Papers, mais il y a aussi des films assez négatifs sur le journalisme, comme Night Call.
Tout à fait, depuis Le Gouffre aux Chimères jusqu'à Night Call, ou entre les deux, dans la chronologie, L'honneur perdu de Katharina Blum, cette programmation montre à la fois les effets positifs en faveur de la démocratie des médias, mais aussi leurs effets négatifs ou dangereux lorsque les médias, pour la recherche du profit et du spectaculaire, détruisent la vie de gens qui n'avaient rien fait, utilisent le malheur et le mettent en évidence, transforment y compris des faits divers qui n'étaient pas si graves que ça en choses extrêmes, parce que ça vend mieux, et ça vend mieux du papier, ou ça vend mieux des clics sur Internet, où la logique est au fond exactement la même, voire déclenche des drames qui n'auraient pas eu lieu sans leur intervention. Donc personne n'est naïf ni idyllique par rapport aux médias. Les médias sont capables de jouer un rôle très positif dans la société et très négatif.
Et donc ça montre un peu tous les aspects du journalisme. Donc,
oui, tous les aspects, ça serait beaucoup dire parce que c'est considérable et on peut pas tout couvrir, mais en tout cas ça couvre effectivement tout cet éventail, y compris le plus récent des films que nous montrons ici pour sa main, qui n'est pas proprement parler du journaliste, c'est seulement quelqu'un qui a été en situation de filmer et qui a choisi de le faire dans cette situation tragique qui se passe en Syrie et avec Ego qui a filmé principalement dans un hôpital dans la ville d'Alep, la violence terrible qui est que subit la population du fait de l'armée de Bachar el-Assad et de l'armée russe en l'occurrence qui les bombarde, et donc il y a une relation d'information qui là est fournie par quelqu'un qui n'était pas journaliste professionnel, mais qui fait de fait un travail en partie comparable à celui des journalistes.
Bah, c'est marrant que vous parliez de ça parce que c'était ma question d'après. J'ai vu ce film hier qui m'a vraiment beaucoup touchée. Je pense que c'est un des films les plus forts que j'ai vu. Et je voulais revenir donc sur la question de ce que pour vous c'est du journalisme, et vous avez déjà répondu en disant que pour vous non, alors que la réalisatrice Bouab Al-Kateab se définit elle-même dans le film en tant que journaliste. Mais c'est vrai que ça me posait moi la question du est-ce que c'est du journalisme, elle est tellement proche de son sujet, donc c'est quelqu'un qui filme son pays, son quotidien, sa famille, et ça pose la question de la légitimité et donc de la subjectivité du journaliste.
Alors ça n'est pas du journalisme au sens professionnel, et peut-être cette dame ne fera jamais rien d'autre sur le plan de l'information que ce qu'elle a fait là, mais ce qu'elle a fait là est si extraordinaire et si important que elle s'est substituée au journalisme professionnel en faisant néanmoins de l'information qu'elle nous rend accessible et qui est diffusée grâce à elle et grâce au cinéma, puisque une chose est de l'avoir filmée, une autre est que ce qu'elle a filmé soit visible dans une forme particulière qui est un film. Elle a filmé des centaines d'heures là-bas. De ces centaines d'heures ont été extraits cet assemblage qui fait un film d'une heure 40 à peu près, et qui est donc une façon, grâce d'abord évidemment au fait de l'avoir tourné, mais ensuite un travail de cinéma qui met en forme ces images et ces éléments d'information pour nous les rendre visibles et accessibles.
Et j'avais une autre question sur le film, c'était pourquoi avoir choisi ce film? Quelle vision du reportage ou du métier de journalisme est-ce que ça donne? Pourquoi l'avoir sélectionné dans le thème, hein?
Le film témoigne à la fois d'une... Le film témoigne à la fois d'une tragédie majeure de notre temps et d'une tragédie qui est encore en cours, qui est en train de se produire au moment où nous parlons, dans la province d'Idlib, pas si loin, également en Syrie. Donc ça a une valeur de témoignage au présent, en même temps que ça a une valeur de traduction de forme contemporaine de circulation de l'information, qui ne relève plus au sens strict du journalisme tel que nous le définissions, mais qui évidemment joue un rôle important. La guerre en Syrie en particulier a donné lieu à énormément d'utilisation des réseaux sociaux, pas toujours à nouveau que pour le bien, puisque ça a aussi donné l'occasion de beaucoup de manipulations, de beaucoup de mensonges, de beaucoup de fake news. Donc il ne s'agit pas de dire que c'est forcément mieux, puisque là, un certain nombre de procédures de contrôle du journalisme ne sont plus actives sur les réseaux sociaux et qui permettent à des tas de gens de dire n'importe quoi, voire des choses très dangereuses. Mais en même temps, ça a aussi permis de faire circuler des informations très graves auxquelles on n'avait pas accès autrement.
Mais c'est vrai que sur ce que vous dites, ça me faisait aussi penser au format un peu YouTube, hein, qu'on peut rencontrer récemment où des gens filment un peu leur quotidien. Ça m'a un peu fait penser à ça, et c'est ce que vous disiez, les nouveaux modèles de journalisme entre guillemets ou d'information.
Tout à fait, mais ça c'est vraiment, c'est pour ça que je tenais beaucoup à ce qu'il y ait aussi un film qui est très important pour moi dans cette programmation, qui est Veillée d'armes de Marcel Ofuls, qui a été réalisé pendant le siège de Sarajevo, donc au début des années 90. C'était une évolution déjà de l'information liée en particulier aux chaînes de télévision en direct, de CNN exemplairement, mais c'est encore le 20e siècle, avec Boursama notamment, ou autrement avec Citizen 4, on est dans l'information du 21e siècle et la manière dont ça fonctionne, encore une fois, pour le meilleur et pour le pire.
J'avais une autre question. J'ai remarqué en général une ouverture du style documentaire, et on remarque dans la programmation, par exemple avec Vanas The Terrible, qui montre un mélange entre les codes du cinéma et du documentaire avec le ciné-docu. Et je me demandais, est-ce que ça, c'est pas au risque de perdre un peu l'essence même du documentaire, qui est de, techniquement, de filmer le réel, hein?
Alors, pour moi, le documentaire, c'est du cinéma. C'est toujours du cinéma, et tout documentaire est mise en scène. Filmer le réel, ça ne veut pas dire qu'enregistrer la réalité comme elle est, parce que ça n'a aucun sens. On n'enregistre jamais la réalité comme elle est. Ce sont des constructions, et il y a des choix des cadres, des choix de montage, des choix de distance, et donc aussi respectueux des faits que soit le documentaire, et il peut l'être, bien entendu, c'est quand même néanmoins de la mise en scène. Donc la question, elle est seulement de degré et pas de nature. Il y a plus ou moins de fiction, plus ou moins d'artifice, plus ou moins de fabrication qui interfère avec avec ce qui vient de la réalité. C'est une situation de mise en question de cette séparation ou de la porosité entre ce qu'on appelle fiction et ce qu'on appelle documentaire, qui a une très très longue histoire. Vous avez absolument raison, par exemple pour Ivan Kala Terrible, qui joue absolument sur cette question-là. La réalisatrice est aussi l'actrice principale, filmant sa famille dans sa ville natale, etc. Jusqu'à quel point ce que nous voyons est-il la transcription de ce qu'elle a vraiment vécu ou pas. Il me semble qu'un des intérêts de ce film, c'est qu'on est presque obligé de se dire en permanence, mais comment on peut voir ça? Ou comment pourrait-on le voir si c'était du documentaire? On est dans sa chambre avec son petit ami, on n'a pas à être là, sauf si en fait ce sont des acteurs. Quand bien même ces acteurs seraient vraiment des gens qui font ça dans la vraie vie, là, à ce moment-là, ils sont devenus acteurs et ils jouent pour une caméra. On est dans la cuisine de sa famille avec sa grand-mère. Normalement, il n'y a pas de caméra là. Pour moi, un des intérêts d'un film comme celui-là, c'est que ça nous aide à nous poser aussi la question de qu'est-ce que c'est que cette caméra et qu'est-ce qu'elle fichait là, dans des films qui font semblant d'être que vous appelleriez des vrais documentaires, et qui sont tout aussi artificiels. Comment il y avait une caméra qui était là et ces gens étaient en train de parler entre eux comme si de rien n'était, ne regardent jamais la caméra, comme si elle n'était pas là, évitent de rendre sensible le dispositif. Là, le dispositif, c'est le cas dans ce film, hein, ils ne regardent pas la caméra, ils ne rendent pas perceptible volontairement et explicitement que tout ça est fabriqué avec une équipe de cinéma qui est en train de filmer ce qui est supposé être des situations du quotidien, mais que ces situations du quotidien sont si intimistes qu'on se dit il y a un truc bizarre. Et je pense que ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que ça aide à se poser les mêmes questions dans des tas d'autres films qui utilisent la même le même moyen, qui pour moi est une tricherie. Un documentaire devrait rendre perceptible, visible, sensible son dispositif de filmage. Si vous regardez par exemple un excellent documentaire comme Citizen Four, Snowden parle à Laura Poitras qui est en train de le filmer et qui lui dit ça va, mais est-ce que ça tourne, on commence, et elle garde ça. À partir de là, c'est pas la peine d'y revenir en permanence pour dire il y a une caméra en train de filmer, vous avez bien vu, etc. Non, non, mais on a accepté, on a pris en compte comment les images que nous voyons ont pu être faites. Et donc on a créé une autre relation à la réalité qui inclut la réalité du filmage en même temps que la réalité de ce qui est filmé et qui ne pourrait pas être visible s'il n'y avait pas ce filmage.
Tu me disais qu'il n'y a jamais de vraie réalité, à partir du moment où on filme, ça change.
Ça n'existe pas la vraie réalité.
Oui. Mais c'est vrai que
il n'y a que des représentations de la réalité. Le documentaire nous amène de passionnantes, de nécessaires représentations de la réalité, mais ça n'est jamais la réalité, avec une grande majuscule. C'est juste la manière dont les gens qui ont fait ce film-là ont voulu, et souvent ont pu, nous partager avec nous certains éléments de cette réalité.
Mais c'est vrai qu'en voyant Ivana la Terrible, ça a quand même posé plus des questions sans plus large. En ce moment, il y a quand même beaucoup de problèmes autour de la fake news et de l'information et de ce qui est vrai et ce qui est faux. Et je me suis dit, les documentaires qui commencent à mêler un peu plus réalité-fiction, ça peut poser des questions au sens plus large sur quoi croire.
Mais il faut se poser ces questions-là. Il fallait toujours se les poser depuis toujours. Quand ce qu'on considère, à tort d'ailleurs, comme le premier documentaire de toute l'histoire du cinéma, Nanouk l'Eskimo de Flaherty, c'est un documentaire sur la vie des Esquimaux, mais en fait le Nanouk ne s'appelle pas Nanouk, le monsieur qu'on voit est bien un Esquimau, mais on lui donne un autre nom qui est plus facile à prononcer que son vrai nom. Ce qu'on le voit faire avec quand il va à la pêche, évidemment on ne rend pas compte de toute la réalité de ce que c'est d'aller pêcher des phoques en faisant un trou dans la glace, parce que ça prend des heures alors que dans le film ça prend une minute. Donc de toute façon c'est pas la réalité, c'est des artifices qui cherchent à s'approcher de la réalité, qui cherchent pas du tout à la travestir ou à la trahir, mais qui néanmoins ne peuvent en aucun cas être la réalité, juste une composition, un assemblage. Donc ça ne dévalue pas le documentaire, bien au contraire, mais ça oblige à passer son temps à se dire qu'est-ce que ça dit de la réalité, ce que le film est capable de me montrer ou décide de me montrer. Quelqu'un qui, comme la réalisatrice de Coursama, quand elle tourne 250 heures d'image et qu'après elle fait un film d'1h40, il y a énormément de choses qu'elle ne montre pas, pour tout un tas de raisons. Et elle a raison, il n'est pas question, elle ne pourrait pas montrer 250 heures. Et de toute façon, même ces 250 heures seraient déjà partiel, elle a vu ce qu'elle a vu, elle n'a pas vu autre chose, elle a une place très particulière, elle a un avis sur ce qui se passe, que nous soyons d'accord avec elle ou pas, peu importe, on prendrait quelqu'un d'autre, il aura un autre avis et il aurait filmé autre chose et autrement. À cause des fake news, à cause de toutes les manipulations en cours, il est très important que nous soyons alertés, nous soyons en éveil permanent sur qui est-ce qui raconte ça, pourquoi ça nous est raconté comme ça, qu'on ait un rapport critique, un rapport interrogatif avec les informations, que ce soit des paroles ou des images ou des sons qui nous arrivent par tous les canaux, et au moins on essaye de prendre une certaine distance et de jamais rien prendre pour argent comptant, ce qui ne veut pas dire qu'il faut ne rien croire, mais réfléchir à pourquoi nous choisissons de croire à ceci et pas cela.
Merci à Tiphaine pour cette interview. Restez avec nous, nous allons replonger dans la thématique des programmes films d'école avec une interview de Gabriel Temer qui a réalisé Clean With Me After Dark, le coup de cœur dont vous parlaient Quentin et Thibaut hier. Et on se retrouve juste après Night Call de Kavinsky, rendu célèbre par le film Drive. Vous êtes toujours sur Radio Campus Angers, il est temps de découvrir l'interview de Gabriel Stemmer qui nous parle de son film de fin d'études avant de découvrir la deuxième chronique de Thibaut et Quentin sur les programmes films d'école.
On est donc en compagnie de Gabriel Stemmer, issu du département montage de la FEMIS et dont le court-métrage Clean With Me After Dark est en compétition dans la catégorie film d'école. Bonjour.
Bonjour.
Alors peut-être pour commencer, donc tu viens de la FEMIS, pourquoi est-ce que tu t'es intéressé spécifiquement au département montage ?
En fait, c'est une bonne question. Au début, je savais pas exactement en quoi ça consistait, comme beaucoup de gens, le montage. Et c'est justement le fait que pour entrer à la FEMIS, il faut se poser la question, qui a fait que j'ai mis à plat tous les métiers, ce que je voulais travailler dans le cinéma, de manière générale, parce que j'adorais ça. Et donc j'ai mis à plat tous les métiers. Je me suis dit bon, ça non. Et il m'est resté scénario montage. Et comme j'avais fait des études de littérature avant, il semblait un peu plus logique que j'allais faire scénario, surtout que j'avais jamais monté quoi que ce soit. Et en fait, ce qui m'a décidé, c'est que j'aimais beaucoup l'idée de ne pas avoir à partir de zéro et d'avoir toute la matière à disposition et de devoir en faire quelque chose. C'est vraiment ça qui m'a décidé et je regrette pas du tout.
Et donc là, le film que tu présentes, tu l'as évoqué à la rencontre à laquelle on a pu assister, c'est un exercice qui était imposé, c'est un peu une figure de style qu'on t'a demandé de faire.
D'une certaine manière, oui. En fait, on doit réaliser un court-métrage. Ça fait partie de ce qu'il faut pour valider notre diplôme. Donc tous les élèves doivent réaliser un film et les monteurs ont une petite contrainte qui est d'inclure des images d'archives, entendues au sens de images non tournées par nous. Donc ça peut être une fois on voit une image et puis le reste du film c'est un film entre guillemets normal, mais moi j'aimais beaucoup la contrainte des archives et surtout que une archive ça peut être une vidéo qui date d'hier, et donc voilà, c'est pour ça que moi j'ai décidé de construire tout mon film avec des images qui viennent d'internet, de YouTube.
Et d'où ça vient alors cette fascination pour les vidéos de ménage? Est-ce que c'est le résultat d'heures d'errance sur internet ou c'est vraiment un plaisir coupable et des abonnements à la chaîne?
C'est un mix des deux. C'est vraiment une grande pratique de YouTube. Je regarde beaucoup, depuis je sais pas 5-6 ans, je regarde beaucoup YouTube. Et en fait, des trucs un peu. C'est toujours absurde parce que j'ai regardé, je sais pas, des tutos de maquillage alors que je me maquille pas du tout. Et en fait, au bout d'un moment, l'algorithme a décidé qu'il était temps pour moi de regarder les vidéos de ménage. Et j'ai commencé et ça m'a plu dans le sens où ça me relaxait beaucoup de regarder ça. Mais bien sûr, j'ai regardé avec un certain recul parce que je comprenais pas du tout que des femmes puissent se filmer en train de faire le ménage à ce point-là, etc. Mais j'en ai regardé beaucoup d'abord par plaisir et bien avant d'avoir l'idée de faire ce film.
Et comment t'es venue de cette idée d'ailleurs de l'envie de faire un film sur ces vidéos-là que tu regardais pendant des heures ?
Je pense qu'il y avait une envie d'en faire quelque chose de toutes ces heures perdues à regarder et me dire voilà, j'ai acquis une connaissance phénoménale sur le sujet, autant en faire quelque chose. Et en fait, je pense que c'est vraiment, je savais que j'avais ce film qu'il allait falloir que je fasse avec des archives. Et de l'autre côté, voilà, ça m'arrivait avec des amis de raconter ce que c'était que ces vidéos et je voyais bien que ça les intéressait beaucoup, que ça les faisait rire et ça suscitait plein de questions. Et moi, j'avais déjà à l'esprit le fait qu'il y avait un hors-champ horrible à ces vidéos-là. Et donc, je me suis dit, je vais aller enquêter là-dessus.
Justement, je voulais revenir là-dessus. On voit que, donc, au début du film, on a quelque chose d'assez drôle quand on ne connaît pas. Et puis, au fur et à mesure, on sent qu'il y a vraiment un malaise qui s'installe avec une souffrance de ces femmes. Et on voulait savoir si c'est quelque chose que tu as découvert, comme si c'était une enquête, ou tu le savais déjà et tu voulais vraiment le montrer.
L'idée globale, je la savais déjà. Moi, dès que le premier clinosimi que j'ai vu, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans sa maison pendant qu'elle fait le ménage? Qu'est-ce qu'elle est dans le silence? Qu'est-ce qu'elle est toute seule? Donc, dès le début, moi, je voyais une violence symbolique très forte. Par contre, j'étais pas allée mener l'enquête parce que, j'avais pas commencé ce processus-là. Donc, par exemple, en faisant le film, j'ai découvert qu'elles étaient aussi sur Instagram et que certaines étaient conscientes qu'elles étaient en dépression totale et qu'elles avaient créé des groupes, etc. Et là, cette solidarité-là de la communauté féminine sur les réseaux sociaux, j'avais pas pris la mesure avant le film. Mais je savais que le film, ce serait qu'est-ce qu'il y a derrière les vidéos de ménage et sous le tapis, etc. Quoi. Qu'est-ce qu'elles cachent ?
Tu les as contactées à un moment, les femmes derrière ces chaînes, tu t'es entretenue avec eux, elles ont pu voir le film?
Alors moi, dès le début, j'ai contacté une de ces femmes, qui est Jessica, qu'on voit le plus, qui a la chaîne Keep Calm and Clean, parce que je savais qu'elle allait être importante dans le film, puisque rien que son pseudo concentre mon propos, qui est que ménage et dépression vont de pair. Donc on avait échangé par mail, je lui avais dit que j'allais faire un film de fin d'études sur ces vidéos-là, est-ce qu'éventuellement on pourrait se skyper, parce qu'au début je pensais inclure une interview par Skype dans le film. Finalement je ne l'ai pas fait parce qu'il n'y avait pas besoin, tout était déjà dit en fait dans leur vidéo. Et ensuite j'ai contacté toutes les femmes qu'on voit pour leur demander l'autorisation. C'était le deal avec la FEMIS pour avoir des sortes de droits. Mais il n'y en a pas beaucoup avec qui ont répondu, il y en a qui ont dit non, je les ai enlevés, il y en a qui ont dit oui. Et après j'ai envoyé le film seulement à Jessica. C'était un peu mon test pour... en fait, elle m'a jamais répondu. Donc, j'ai pas envoyé aux autres. J'ai pas voulu, parce que je sais pas ce que cache ce silence-là. Et je peux comprendre qu'elle ait peut-être été un peu bouleversée par le film. Donc, j'ai plus de nouvelles d'elle, ouais.
Au niveau du montage, un peu plus précisément, comment tu l'as travaillé? Est-ce qu'on démarre par des suites de vidéos individuelles? On commence, on a des effets d'accumulation. On revient à une seule vidéo. Après, on passe sur Instagram, on passe sur Google Maps pour resituer un peu aussi dans l'espace toutes ces femmes-là. Comment tu l'as travaillé?
J'ai d'abord écrit une sorte de trame où je voulais vraiment travailler sur l'accumulation des vidéos pour que les gens comprennent que c'était un phénomène où il y en avait plein, etc. Donc les mosaïques, etc. J'avais vraiment l'idée dès le départ. Et après, oui, tout l'enjeu, c'était de trouver comment arriver à changer de réseau social, comment approfondir le sujet. Et ça s'est fait vraiment en faisant des petits essais sur mon ordinateur, quoi. Ça n'a pas été très compliqué de... Je ne sais plus à quel moment j'ai eu l'idée de Google d'aller voir leur maison. Assez tôt quand même. Et en fait, après, c'était plus les questions de comment... qui est-ce qui clique, en fait. Voilà. C'était la question du narrateur qui a posé problème pendant longtemps. Moi, je ne voulais pas qu'il y ait de voix off. Et il n'y en a pas. Mais j'ai hésité parce qu'on me disait qu'il fallait en mettre une, par exemple. Et j'avais envie que ce soit un personnage qui clique au début, que l'ouverture de session ce soit pas la mienne, que ce soit un nom de quelqu'un, peut-être une youtubeuse, je savais pas. Et finalement, en fait, j'ai simplifié et je me suis presque effacée complètement du film, et il reste juste la souris, quoi, qui fait entrer le spectateur dans toujours plus profond, quoi.
Tu pensais te retrouver nominée à premier plan avec ce film, ou ça a été un peu la surprise de te retrouver ici?
Non, c'était une bonne surprise, c'était une très bonne surprise, surtout que c'est un film un peu expérimental, donc être dans une catégorie de films normaux aussi, je trouve ça très bien. D'ailleurs, en fait, j'ai vu des films de la sélection, ils sont tous hyper différents, je pense qu'ils font attention à ça aussi, c'est bien. Non, c'est vrai que quand j'ai fait le film, je me demandais un peu comment il allait être reçu, compris... Et je suis très contente de voir que bah déjà c'est compris. Et puis qu'en plus, ouais, c'est sélectionné, c'est une très bonne surprise.
C'est vrai qu'en tout cas, bah, c'est très touchant. Donc bah, bravo et puis bah, bonne continuation.
Bonne continuation, oui.
Avec moi dans les studios, Quentin et Thibault. Bonsoir, vous venez présenter votre seconde chronique pour les programmes films d'école. Je vous laisse la parole.
Bonjour à vous tous, et c'est toujours en compagnie de Thibaut que nous entamons le deuxième jour de visionnage des films d'école sous le soleil froid du mois de janvier. Mais en mois de janvier, ne dit-on pas là, Saint-Sébastien ?
L'hiver s'en va ou revient.
Et voilà, l'hiver s'en va ou revient, c'était un petit peu le thème de ce bloc 2. Des fois c'est bien, et des fois ça cagne un peu, mais on va vous expliquer ça tout de suite avec le premier film que tu vas nous présenter, Thibaut.
Et oui, premier film de ce deuxième programme qui est donc Only Plastics and Diamonds Are Forever, de la réalisatrice slovaque Stefania Lovazovia, actuellement en master à l'Académie des Arts de Bratislava. On reste sur un cinéma très tranche de vie prise en cours de route, et l'on y suit Lucia, jeune Slovaque qui n'a pas l'air très épanouie dans sa vie, malgré les petits mantras positifs sur post-it que l'on retrouve parsemés dans son grand appartement à moitié en rénovation. Père alcoolique qui apparaît brièvement, relation d'un soir tout aussi fugace, son seul réconfort a l'air d'être son chien à collerette. On a une réalisation assez léchée, caméra à l'épaule, pas mal de jeux sur les profondeurs de champ pour coller au personnage, tout en donnant une impression de flottement quand on se balade dans les décors environnants. On va croiser brièvement une galerie de personnages qui nous représente un peu une jeunesse slovaque qui a l'air de se chercher, avec notamment le nouveau colloque de Julia, Pet, un youtubeur local en panne d'inspiration. Et pour moi, tout ça fonctionne quand même plutôt bien, hein. C'est très joli, c'est très bien interprété, et on a une certaine ambiance, une certaine mélancolie qui se dégage de tout ça.
Bah moi aussi, j'ai plutôt apprécié le film, qui est tout à fait intéressant, avec un jeu d'acteur bien, des plans très sympas aussi, et puis avec cette petite amitié aussi qui se crée, c'est toujours fun, quoi. Mais pour moi, je trouve le film un peu trop court, quoi. Il y a beaucoup de mise en place pour une conclusion qui est peut-être un peu trop abrupte. Enfin, c'est assez simple, j'ai un peu l'impression d'avoir streamé le film sur un site et qu'au bout de 20 minutes, il y a Routube qui m'a dit que les 20 minutes étaient finies, qu'il fallait que je clique sur le lien Mediafire. Donc, un film plutôt chouette. Après, oui, je reste quand même un peu sur ma faim.
C'est un peu le syndrome du film d'école. On a eu ça un peu hier aussi avec Alma and the Herd. Mais c'est aussi ça, les limites, c'est que c'est des films de fin d'études ou des films de gens en cours d'études. Et c'est clair qu'on peut avoir de très belles choses, mais il y a des limitations qui se comprennent tout à fait en termes de budget ou de ce qui est possible de faire.
On poursuit ensuite avec le second film qui s'appelle AMCUC, avec le titre en allemand Mein ganzer Stolz, qui veut dire toute ma fierté. Réalisé par Anna Wessenborn, qui a commencé d'abord par faire des films documentaires et qui étudie à l'Académie de cinéma de Baden-Württemberg. Donc en fait, ça nous raconte l'histoire de Stanku, un chauffeur routier qui, pour une livraison urgente, doit donner à son neveu Dragan, qui est chauffeur routier également, une carte de routier qui lui permet de faire des heures sup illégales. Donc en gros, ça permet de prendre l'identité d'un autre chauffeur, et en fait, bah, ça te permet de ne pas prendre ta pause déj et ta pause sommeil pour faire la livraison plus vite. Mais malheureusement, le neveu Dragan est un peu genou et inconscient, ce qui va faire stresser l'oncle Stanko pendant tout le trajet. Bon, alors, c'est vrai que quand on n'est pas très familier avec le monde de la conduite poids lourd, un scénario basé autour de cette fameuse carte de chauffeur, ça peut être un petit peu déstabilisant, même si, je vous rassure, on recapte quand même assez vite le souci. Donc, c'est un film qui a beaucoup de tensions, hein, qui, au-delà de nous offrir des très très beaux panoramas des autoroutes de Rhénanie, puisque c'est des plans qui sont quand même faits de nuit, avec des très très belles lumières, on a des flous aussi sur les plans qui sonne vraiment bien. Ça nous montre aussi la dureté en fait du monde du travail et du monde des chauffeurs routiers. Donc ça parle vraiment de surmenage, de stress, d'accidents du travail, enfin tout ça pour le grand capital et la livraison. Donc un bon film d'école pour moi, avec du très bon, quoi.
Ouais, je te suis sur pas mal de points. J'ai pas grand chose à rajouter. Alors c'est vrai que c'est très joli. Bon, j'ai moi-même une certaine acquaintance avec les paysages désolés de zones industrielles, mais là il y a quand même vraiment un charme qui se dégage de tout ça. Et puis bah oui, c'est vrai qu'on ne suit pas forcément toutes les finesses du scénario, mais c'est aussi ça qui est assez intéressant, on nous prend pas par la main, et finalement, voilà, et puis là on a un petit peu plus un début, un milieu, une fin, et donc pas mal du tout. Je reprends la main pour le troisième film de ce deuxième programme, Le Capero, de Ronny Tanios. Donc Ronny Tanios, originaire de Beyrouth, mais qui a grandi et qui a fait ses études à Paris. Il a fait des études en médecine avant de faire une maîtrise en cinéma, avant de faire des études de réalisation, un sacré CV. On va suivre dans ce film la journée de cours d'un jeune lycéen qui, pour une raison ou pour une autre, est nu tout au long de la journée, sans que personne ne semble le remarquer. Il y a aussi une histoire d'éclipse. Bon, premier film tourné en français de cette sélection, pour nous, et c'est peut-être une partie du problème, parce que contrairement à des films qui nous viennent de pays moins communs, un peu plus exotiques, entre guillemets, on a forcément un peu plus l'habitude des films français. Et faire un film français qui se passe dans un lycée, quand on est pas Riyad Satouf et qu'on a des acteurs qui sortent un peu de cette école d'acting français, un peu théâtral, directement c'est pas hyper emballant. Et je veux bien qu'on présente le film comme explorant l'inconscient humain et mêlant réalisme et fantastique, sauf que dans les faits, le côté absurde et le côté surréaliste, c'est pas Quentin Dupieux non plus, quoi. Bref, on a dit qu'on allait pas non plus trash talk tous les films, je préfère donc ne pas en rajouter. Et puis voilà, on peut noter que la réalisation est tout de même très propre.
Ouais, ben j'ai pas grand chose à rajouter non plus, hein. Je pense qu'on est clairement du même avis. J'ai quand même essayé vraiment de comprendre l'intérêt du truc, mais c'est vrai que après, personnellement, moi j'ai toujours eu un peu de mal avec la nudité au cinéma quand ça sert pas le propos, et de ce côté-là, bah voilà, voir un adolescent à poil toute la journée dans la peau d'un écolier turbulent dans une école tout à fait banale, peut-être même un peu parfois peut-être pas cliché, mais voilà, quand même un peu, bah moi ça m'a pas transcendé du tout. Ce qui n'est pas forcément le cas du quatrième film, puisque là c'était un petit peu notre petit coup de cœur, faut le dire. Est-ce qu'il a été favorisé à cause du film précédent? Donc ça, c'est autre chose. Donc il s'agit de Summer Heat, qui veut dire le tube de l'été, réalisé par Berthold Wajudi, qui est rentré à l'école de cinéma de Munich dans la case réalisation, qui nous présente en fait sur des fonds d'air de jazz une petite histoire d'amour entre un étudiant islandais qui s'appelle Emil et une étudiante espagnole du nom de Laia, qui sont tous deux en fait en fin de cursus Erasmus en été à Munich. Et déjà ça fait vachement de bien parce que les dialogues sont plutôt drôles et sympathiques. Il fait beau, c'est l'été, ce qui quand on est en face d'un quatrième film d'école où on a vu justement donc les paysages de l'Allemagne, un paysage dans un pays d'Europe centrale beaucoup plus sombre, et tout de suite ça égaye un peu ça égaye les.
Oui, voilà, ça égaye, et puis voilà, il y a une bande son qui est très présente, il y a beaucoup de jazz, c'est vraiment le petit bonbon pop un peu acidulé, sans que ça soit non plus superficiel, quoi. Voilà, c'est une tranche de vie en Erasmus, sans que ça soit le drama de l'auberge espagnole avec des trucs un peu claqués, quoi.
Et en fait, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est une histoire d'amour qui n'est pas poussée à l'extrême, simplement un petit flirt. C'est en fait une histoire de, voilà, un plan cul qui va bientôt se quitter, mais qui s'aime bien, sans forcément, voilà, faire du drama très réel, simple et posé, qui nous rappelle aussi nos jolies années de fac et qui fait bien, bien plaisir.
Et voilà, et c'est vrai que pour conclure une séance, on a pu sortir des fois des séances de films d'école avec le cœur un peu lourd et la vache, la vie, des fois. Puis là, voilà, on sort de là, il fait encore beau, il fait encore un peu doux et puis bah, c'était très bien pour conclure cette deuxième journée. Puis bah, on se retrouve demain, Quentin.
À demain, Thibaut.
Merci beaucoup à vous pour toutes ces informations. Je pense que vous savez attiser la curiosité des auditeurs. Rendez-vous demain pour découvrir une toute nouvelle chronique sur la suite des programmes de films d'école. Et en attendant, on écoute tout de suite Hurt Like Yours de Willamette Stone, tiré du film If I Stay, sorti en 2014.
Breathe deep, breathe clear. Know that I'm here. Know that I'm here. Waiting, stay strong, stay gold. You don't have to fear. You don't have to fear. Waiting, I'll see you soon. I'll see you soon. How could a heart like yours ever love a heart like mine? How could I live before? How could I have been so blind? You opened up my eyes. You opened up my eyes. Sleep sound, sleep tight. Here in my mind, here in my mind. Waiting, come close, my dear. You don't have to fear, you don't have to fear. Waiting, I'll see you soon. I'll see you soon. Could a heart like yours ever love a heart like mine? How could I live before? How could I have been so blind? You opened up my eyes. You opened up my eyes. Hold fast hope, all your love is all I've ever known. Hold fast hope, all your love is all I've ever known. How could a heart like yours ever love a heart like mine? How could I live before? How could I have been so blind? You opened up my eyes. You opened up my eyes. You opened up my eyes. You opened up my eyes.
19h approche, il est temps pour le sous-marin de remonter à la surface. Vous pourrez comme d'habitude retrouver cette émission en podcast sur notre site radiocampusangers.com dans la rubrique Le Sous-marin. Et on se donne rendez-vous demain pour la suite de notre semaine spéciale Premier Plan. Et d'ici là, bonne soirée à tous sur le 103 FM.